Voilà, donc on reprend le parcours avec Laure Blanchon, qui est Ursuline de l'Union romaine. Je crois que c'est comme ça qu'on dit.
Oui.
Voilà. Donc Étienne vous a dit que voilà, elle avait fait sa thèse sur l'analyse d'interviews qui avaient été faites de personnes dans la grande pauvreté. Et elle va vous parler, Laure, des fondements bibliques de la priorité aux plus pauvres chez le père Joseph Wresinski. Laure, à toi la parole.
Merci. Alors, sur quel fondement biblique le père Joseph fonde-t-il la priorité aux plus pauvres qu'il place au cœur de sa pensée? Ses points d'appui sont-ils dans l'Ancien et le Nouveau Testament ou seulement dans les Évangiles? C'est avec ces questions que je suis entrée dans la lecture des livres du Père Joseph et j'ai été étonnée de ce que j'ai découvert et c'est ça que je vais vous partager. Le plus souvent, le point d'appui du Père Joseph pour fonder la priorité aux plus pauvres, ce ne sont pas des textes bibliques en tant que tels. Il met plutôt en avant des figures christologiques. Et dans ces livres, j'en ai repéré trois. Première figure, le Fils de Dieu fait homme de la misère. Ou dit autrement, Jésus fait homme misérable. Ou bien le Christ misérable. Avec cette figure, il insiste sur le fait que le Fils de Dieu a vécu dans la misère, de la crèche à la croix. Il s'est personnellement compromis et toute son existence est immergée dans la misère. Comme les plus humiliés de la société, il est méconnu, méprisé, rejeté hors de la cité. Ne se prétendant ni philosophe ni théologien, le père Joseph Wresinski ne cherche pas à démontrer, mais seulement à porter témoignage de cette affirmation. Donc, première figure christologique. Deuxième figure christologique, Jésus, familier des foules de la misère, qui, au milieu de ces foules, repérait et mettait à l'honneur les plus exclus de ces foules de la misère. Une petite citation. Jésus distinguait et particularisait sans cesse un plus dépouillé, un plus malmené encore que les autres. Il créait l'événement autour d'hommes et de femmes déclarés impurs, exclus de la vie de la communauté en raison de leur maladie, de leur métier, de leurs conditions trop humbles ou parce qu'ils représentaient une charge trop lourde pour les autres. Fin de citation. Ainsi sont évoqués la rencontre de Jésus avec le lépreux, la Samaritaine, Zachée, la femme aux pertes de sang, les plus faibles des estropiés, les chômeurs, le larron, etc. Voilà pour cette deuxième figure christologique. La troisième, c'est Jésus descendu aux enfers et ressuscité. Cet événement de la descente aux enfers suivi de la résurrection est le lieu où se joue le salut de toute l'humanité. Pour le père Joseph, cette descente aux enfers de Jésus, suivie de sa résurrection, est la garantie de la résurrection de tous les hommes. Je vous lis quelques lignes du père Joseph. Tous les enfers que peuvent vivre les hommes, et particulièrement les familles dans la misère, contiennent désormais non seulement la promesse, mais le début de leur résurrection. Au Golgotha, et parce que Jésus fit dans ses heures de mystère impénétrable suivant la crucifixion, la souffrance de l'homme causée par l'homme devint à tout jamais chemin de retour vers l'homme et vers Dieu. Fin de citation. Avec ces trois figures christologiques, le Père Joseph insiste sur la réalité de l'incarnation du Fils de Dieu comme homme de la misère, sur le choix accompli par le Christ d'être l'ami des pauvres et de partager leur vie, et sur la radicalité de la manière dont le Christ a épousé l'humanité en entrant jusqu'au plus dramatique, l'humiliation, la violence injuste, la mort ignominieuse. Il s'est fait homme de la misère par amour pour tous. Il communie aux plus pauvres et devient au cœur de cette expérience leur libération, dit le Père Joseph, ouvrant à tous, à commencer par les plus pauvres, la vie nouvelle de la résurrection. Cette union de Jésus avec les plus pauvres manifeste l'universalité du salut et dévoile que c'est à partir des très pauvres que rayonne le salut universel. À la suite du Christ, l'Église est appelée à aller vers les pauvres, à opter pour eux. Elle a mission de devenir une Église des pauvres, une Église qui fait des plus pauvres son centre, sa vie, sa prière, sa foi. Une Église qui change sa manière de vivre pour annoncer aux pauvres qu'ils sont bien heureux. Donc dans la plupart des écrits du Père Joseph, nous trouvons ces trois figures christologiques pour fonder la priorité aux plus pauvres. Cependant, le Père Joseph recourt aussi à quelques péricopes bibliques. Le plus souvent, elles sont évoquées sans que l'auteur ne donne la référence, ni que le texte soit cité. Et il faut donc que le lecteur reconnaisse, devine presque, la péricope sous-jacente. À partir de ma lecture, il me semble qu'on peut repérer 9 péricopes bibliques auxquels il recourt pour fonder la priorité aux plus pauvres. D'abord, Isaïe 53, avec la figure du serviteur de Dieu. Ensuite, la scène des tentations, où Jésus est présenté comme celui qui refuse tout pouvoir, provoquant l'oppression d'autrui, l'exploitation des pauvres, l'exclusion des plus démunis d'entre eux. Troisième péricope biblique, la parabole des invités au festin, selon Luc 14, 15-24, avec en particulier l'expression qui pour le coup est citée régulièrement, « Allez dans les places et dans les rues de la ville et amenez ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Et puis aller encore dans les chemins creux et le long des haies. Cette expression, c'est son point d'appui majeur pour fonder ce mouvement continuel d'être toujours à la recherche du plus pauvre que ceux que l'on a déjà rencontrés. Lié à cette invitation au festin, le lavement des pieds dit l'honneur fait aux pauvres qui arrivent pour le festin. Et il évoque aussi l'humble service des chrétiens à la suite du Christ. Notre péricope, l'esclandre de Jésus au temple, auquel le Père Joseph recourt pour dénoncer l'exclusion des pauvres de la proximité avec Dieu. À plusieurs reprises dans les pages, on retrouve aussi cette phrase de Matthieu 11, 25, « Père, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. » Et le Père Joseph utilise ce verset pour exprimer le choix de Dieu. Septième péricope, le récit de la scène, qui est souvent lié à des méditations sur l'Eucharistie, comme le lieu où Jésus assume aujourd'hui toute détresse et toute humiliation pour restaurer, dit le Père Joseph, l'éminente dignité des pauvres. Huitième passage, la parabole du jugement en Matthieu 25, et le Père Joseph recourt à ce texte pour souligner l'identification du Christ avec les plus pauvres, Ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et dernier texte que l'on peut repérer, Jésus qui prend condition d'esclave, selon Philippiens 2, une citation du Père Joseph, « Jésus a pris la condition de l'esclave, de la misère la plus totale, pour affirmer que jamais l'homme ne peut être entamé. » Voilà pour ces 9 péricopes bibliques que l'on trouve dans les écrits du Père Joseph pour fonder la priorité aux plus pauvres. On voit donc qu'à l'exclusion de la référence à Isaïe 53, l'appui biblique du Père Joseph pour fonder la priorité aux plus pauvres est exclusivement christologique et ce sont tous des textes du Nouveau Testament. C'est là que j'ai été étonnée. L'écart entre les fondements bibliques du Père Joseph et ceux des théologiens latino-américains, ça m'a beaucoup étonnée. En effet, en Amérique latine, les fondements bibliques de l'option pour les pauvres sont à la fois dans l'Ancien Testament et dans les Évangiles. À partir de quelques lectures dans les théologiens de la Libération, il me semble qu'on peut repérer 7 fondements principaux dans leurs écrits. D'abord, le récit de l'Exode, qui raconte l'agir libérateur et sauveur de Dieu. Le Seigneur entend les pauvres crier vers lui, Exode 3. Il vient les sauver par son serviteur Moïse, qui conduit le peuple de l'esclavage en Égypte à la liberté en terre promise, Exode 15. C'est l'une des références les plus structurantes de l'option pour les pauvres en Amérique latine. On peut repérer aussi le cri des pauvres tel qu'il se fait entendre dans les psaumes. Les pauvres du Seigneur en appellent à leur goël, leur défenseur, le vengeur des pauvres, c'est Dieu. Une troisième référence majeure se trouve dans les prophètes, en particulier Amos, Osée, Jérémie, Michée, dans leur critique de la domination et de l'exploitation des plus pauvres par les puissants. Dans le corpus prophétique, il faudrait aussi ajouter la figure du serviteur souffrant en Isaïe. Dans le corpus du Nouveau Testament, c'est avant tout la personne de Jésus et sa manière d'accomplir sa mission. Et donc, les théologiens de la Libération insistent sur la prédication du règne de Dieu, sur la proximité de Jésus avec les pauvres et sur les béatitudes telles qu'elles nous sont données dans l'évangile de Luc. Une sixième référence biblique chez les théologiens de la Libération, c'est l'événement de la croix, où le Christ crucifié est lu comme étant uni au peuple crucifié. Et enfin, dans la théologie de la Libération, on trouve quelques paraboles pour fonder une praxis, une pratique attentive aux pauvres, en particulier la parabole du bon samaritain en Luc 10 et le jugement selon Matthieu 25. Comme vous voyez, les points d'appui pour fonder l'option pour les pauvres des théologiens de la Libération sont assez différents de ceux des écrits du Père Joseph. Dès lors, comment comprendre cet écart? Pour le Père Joseph, comme pour les théologiens de la Libération, la Bible est lue à partir de la proximité avec les personnes vivant la misère. Le point de départ, c'est l'expérience vécue par les plus pauvres. Et cette réalité souvent dramatique rend sensible à certains textes et met en recherche de ce qui va permettre aux plus pauvres de trouver lumière sur son chemin et force pour son combat. On a donc un jeu à 3 termes. La réalité vécue par les très pauvres, à partir de laquelle est abordée la parole de Dieu, la parole de Dieu elle-même, et l'écoute de cette parole de Dieu et le discernement de ce qui peut être chemin de vie pour les très pauvres. Et ça, c'est assez proche de l'interprétation populaire de la Bible au Brésil. Comment cette lecture opère-t-elle? Carlos Mester précise que, en citation, « les pauvres lisent la Bible à partir de l'unique critère dont ils disposent, leur vie de foi et leur vie de souffrance comme peuple opprimé. » Fin de citation. Les pauvres sont touchés de découvrir dans la Bible une histoire semblable à la leur, faite d'oppression et de lutte pour la vie. Et cette découverte, ça leur donne le goût pour lire la Bible et y chercher un sens à leur vie. Habituellement au Brésil et plus généralement en Amérique latine, la Bible est lue en communauté chrétienne. Et c'est la fidélité à cette parole qui conduit la communauté à sortir d'elle-même pour défendre la vie du peuple. Et donc les communautés s'engagent pour chercher ce qui va favoriser la vie des plus pauvres et défendre leur vie contre l'injustice. On a donc une dynamique à trois termes. Je peux prendre ça ? Que j'ai essayé de dessiner en m'inspirant de Carlos Mester ici. C'est un peu petit peut-être, mais vous pourrez venir voir de plus près ceux qui sont tout au fond et pour qui j'ai écrit trop petit. Donc, allumé, je vais essayer. Donc, connaître la Bible, vivre ensemble en communauté de foi et servir le peuple. Et c'est dans la circularité de cette dynamique que se vit l'option pour les pauvres. La lecture populaire de la Bible permet d'éclairer la vie d'aujourd'hui à la lumière de la présence parmi nous de Dieu et du Christ ressuscité, agissant par son esprit. Donc il s'agit de lire la vie à l'aide de la Bible et de changer cette vie. L'analyse de Carlos Mester met donc clairement en lumière que l'engagement pour servir la vie du peuple pauvre se fonde sur une lecture de la Bible à partir de la réalité vécue par les très pauvres. Or, comme on l'a évoqué ce matin, cette expérience n'est pas la même dans tous les contextes. Même si c'est un peu réducteur, on pourrait dire qu'en Amérique latine, c'est surtout une expérience d'injustice et d'oppression. Tandis qu'en Europe, ce serait plutôt une expérience d'exclusion et d'indifférence. Et ça permet de mieux comprendre pourquoi les fondements bibliques mis en avant ne sont pas les mêmes. Et il en découle une modulation selon le contexte de la figure de la priorité aux plus pauvres. En Amérique latine, donc le contexte est celui d'un peuple pauvre. La société est structurée de telle sorte que environ 90% de la population est pauvre et 10% sont riches. L'option pour les pauvres, elle est comprise comme le chemin de libération du peuple pour échapper à une minorité qui opprime. Il s'agit d'une dynamique de libération des pauvres par eux-mêmes en se mettant sous la conduite de Dieu en mouvement vers la liberté pour échapper au pouvoir oppresseur. On a donc un mouvement de libération. En Europe de l'Ouest, le contexte est assez différent. C'est globalement une société d'opulence, où 85 à 90% de la population vit aisément, tandis que 10 à 15% vit dans la pauvreté. En un tel contexte, l'option pour les pauvres est différente. Jésus inspire des personnes qui prêtent attention aux plus abandonnés de la société et veulent faire société et église ensemble, en restant toujours en recherche de celui qui manque. C'est donc une dynamique d'alliance avec les plus marginalisés, pour faire corps social et église ensemble, pour s'asseoir ensemble au festin des noces. On a donc un mouvement d'alliance, un mouvement d'unité. Si on prenait la figure du bon berger, on pourrait dire qu'en Amérique latine, on aurait le bon berger conduisant son troupeau du ravin des ténèbres vers les verts pâturages, quelque chose dans la ligne du psaume 22. Selon le père Joseph, on aurait plutôt la parabole que nous avons gestuée tout à l'heure, le bon berger qui laisse le troupeau pour aller chercher la brebis égarée et qui la ramène tout joyeux, et tous se réunissent autour d'elle pour s'engager ensuite ensemble pour la libération de tous. Donc dans la ligne de Luc 15. Que conclure ? Que conclure de cette enquête sur les fondements bibliques de la priorité aux plus pauvres ? Eh bien, les différences dans les figures de l'option pour les pauvres viennent de l'enracinement dans la parole de Dieu, écoutée à partir de la réalité vécue par les plus pauvres. Cette écoute amène à un travail de discernement de ce qui peut être chemin de vie et de force pour les très pauvres dans ce contexte particulier, avec ses traits et ses défis spécifiques. À partir de là, les pasteurs et les théologiens déploient une certaine figure de l'option pour les pauvres qui est appropriée à la réalité locale. C'est donc cet enracinement dans un contexte qui donne à l'option pour les pauvres d'être féconde et vivifiante. Par son ajustement aux défis locaux, elle peut avoir un véritable effet transformant sur la figure ecclésiale et sur la société. Merci beaucoup.
Merci Laure d'avoir souligné à la fois l'enracinement christologique du Père Joseph et puis cette différence avec en tout cas une partie de la théologie de la libération à travers Carlos Mester. On va continuer sur cette ligne biblique avec Christophe Pichon. Voilà, c'est lui. Alors très bien.